Europe 1, en balade avec Frédéric Taddeï.
C'est l'émission qui vous accompagne, la balade, donc qui vous accompagne jusqu'à midi et demi. Frédéric Taddeï qui reçoit deux femmes aujourd'hui. Elles ont ensemble fait un spectacle, monté un spectacle, une actrice, une chanteuse, Dani Emmanuel Seigné.
Frédéric Taddeï, en balade avec Emmanuel Seigné et Dani sur Europe 1.
Nous voilà devant le Trianon, vous nous avez donné rendez-vous. Je trouve que vous ressemblez toutes les deux, vous ne trouvez pas ?
Pourtant, elle est blonde.
Elle est blonde, oui, mais il y a un...
Fausse blonde.
Il y a un air de famille, vous êtes toutes les deux des punks de la féminité pour moi.
Emmanuel, elle dit que c'est une punk structurée, j'aime beaucoup le mot.
C'est pas mal, ouais. Comédienne, chanteuse, toutes les deux, après avoir été mannequin.
Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'on a un peu le même parcours.
Il y a un petit parcours...
Similaire.
Ouais. Pourquoi le Trianon ?
Parce que d'abord, un, c'est une salle où elle a chanté il n'y a pas longtemps.
Ouais. Avec les Liminanas.
Ouais, c'était bien.
Ouais, trop bien.
En face, il y a le lycée Jacques Decour où Dani a chanté il n'y a pas longtemps. Hein.
Il n'y a pas longtemps, dans le théâtre. Dans le théâtre, ouais. Super.
Elle a chanté là-bas ?
Oui, de l'autre côté, c'est super ce théâtre qu'elle a.
Un très joli théâtre et puis c'est un beau lycée, c'est un des plus beaux lycées de Paris. C'était le lycée de François Truffaut, de Courteline,
oui.
De Maître Gims aussi.
Exact, hein, exact.
Et je crois qu'il y a Manet aussi qui était là au lycée.
Ça alors.
Et Bergson était professeur, pour te dire. C'était une sacrée ambiance. Ouais. Vous aimez bien Pigalle, Emmanuel Seigné ?
J'aime bien ce quartier, mais j'habite pas du tout dans ce coin, donc je connais pas très bien en fait.
J'ai l'impression que c'est en train de redevenir un quartier branché, Pigalle.
Branché, Pigalle, c'est Pigalle toujours. Après, comme dans tous les quartiers, il y a plein de moments où c'est en avance bobo, comme on dit, entre guillemets. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Et après, Pigalle, quoi. Il y a quand même une atmosphère assez sympa.
Ouais.
Et ça reste, ça a toujours été un quartier musical, au fond. Il y a plein de salles de concert. Derrière nous, il y a l'Élysée Montmartre. Là, il y a le Trianon.
Il y a la Cigale.
Loin, la Cigale, oui.
Toutes les salles
de spectacle
qu'Emmanuel Seigné a hanté.
Non.
Pas toutes, il en reste un peu. Faire.
J'ai joué que au Trianon et à la Boule Noire.
Oui, la Boule Noire qui est juste à côté, que j'avais oublié.
Ouais.
Vous avez dit un jour que vous préfériez les salles de rock un peu cracra.
Oui.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont ?
Je sais pas, parce que je trouve qu'il y a une âme, il y a une atmosphère que j'aime bien.
Puis la transpiration un peu aussi.
C'est ça ?
Ouais, je sais pas.
J'aime bien quand c'est un peu...
On aime bien les salles comme ça, non ?
Ouais, les salles comme ça, ouais.
En même temps, la différence entre vous, c'est que autant Emmanuel Seigné est rock, autant Dani vient plutôt du musical.
Oui, bah ça c'est un parcours atypique.
Ouais.
Moi j'ai commencé là, mais je crois que le mot rock, c'est dans une attitude plutôt que dans la musique.
Mais Dani, elle est très rock en fait.
Ah
mais
oui,
c'est vrai qu'elle a fait, en termes de musique, t'as fait plus de pop peut-être.
Non, le spectacle de l'Alcazar, quoi, quand même. C'était un truc, une revue, genre.
Oui.
Mais c'était aussi l'époque, peut-être.
Oui, bien sûr, bien sûr. 69, c'est ça, 70, oui. C'était dément, ça.
À une époque où, justement, en France, il n'y avait pas de rock, de toute façon.
C'est
on
ça,
avait pas
c'est
le choix.
Ça.
Oui.
Je me souviens qu'à ce moment-là, on ne disait pas les concerts, on disait partir en gala.
Oui, on disait les galas, première partie.
En France, il y avait Clo-Clo et tout à cette époque,
ça.
Quoi.
Moi, j'ai fait les premières
parties. C'était pas Lou Reed.
Moi, j'adorais Lou Reed, les Doors, les Kings et tout ça. Je partais avec Claude François, Julien Clerc et Johnny Hallyday. Quoi. Et comme j'étais une gonzesse, je remplissais pas les salles, évidemment. Donc, j'étais en première partie de tous ces mecs. C'était très confort, hein, ceci dit.
Ouais.
Bah oui, j'étais comme une princesse, tu vois.
Mais Dani, elle me fait penser à Lou Reed.
Oui,
c'est
j'aurais
ma petite
pensé
Lou Reed.
À Nico.
Oui, à Nico aussi.
Nico, c'est vous.
Oui.
Vous êtes Nico, elle est Lou Reed.
Ouais.
Nico, c'est vrai, blonde, mannequin, chanteuse, la voix grave.
Elle a une voix un peu perchée.
Ouais, moi j'ai une voix plus enfantine.
Ouais, quand on chante Boomerang, ça m'enchante, sa voix là-haut comme ça. C'est très joli.
Il y a un petit côté révolté chez vous deux aussi. Vous l'êtes ou vous l'êtes pas ?
Moi je crois que je suis libre, donc forcément ça va avec la révolte.
Emmanuel ?
Moi, oui, un peu.
Oui, elle est un peu.
Vous êtes révolté a priori ou vous avez une bonne raison de l'être ?
A priori.
A priori. Emmanuel reconnaît qu'elle est révoltée seulement a priori. Il y a eu un beau texte révolté d'Emmanuel Seigné qui est sorti au mois de mai quand on vous a proposé d'aller de rejoindre l'Académie des Oscars et que vous avez envoyé une très belle lettre ouverte pour dire que
c'était abusé.
C'était abusé de vous demander de siéger dans cette Académie qui peut-être renvoyer votre mari.
C'est ça, c'était vraiment abusé, j'ai trouvé.
C'était un beau texte, vous l'avez écrit toute seule ?
Je me suis fait aider par quelques amis, mais le texte final, c'est moi qui l'ai écrit,
Toute seule ?
toute seule.
Et vous avez eu des échos de la réaction
des Oscars
à Hollywood?
Non,
non,
aucun écho.
Aucun écho.
Ils ont joué l'été. Ils ont joué le summer.
Ouais. Mais il n'y avait rien à ajouter de toute façon. Hein.
Ah non. Ils ont eu l'air bien cons, quoi.
Europe 1.
On est boulevard Rochechouart, juste en face de là où il y avait autrefois le Chat Noir, le cabaret. Au pied de la butte, c'est là que Pigalle a commencé à la fin du 19e siècle. On se retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Emmanuel Seigné et Dany sur Europe 1. Et à 11h11, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Nous sommes en balade avec Frédéric Taddeï dans les rues de Paris, en compagnie de celles qui ont monté leur spectacle en commun, Dany la chanteuse et Emmanuel Seigné l'actrice.
Alors ce projet de spectacle musical inspiré de l'autobiographie de Dany, La nuit ne dure pas, je connais le livre, Dany était venu en parler sur Europe 1, mais avec vous deux ça va faire quoi?
Emmanuel, elle rentre sur scène, elle lit un petit morceau en hommage aux auteurs et aux compositeurs. Après je la rejoins, on chante ensemble, elle s'en va, je chante deux ou trois chansons, elle revient. Ça s'en va et ça revient, mais c'est très...
Et ça raconte votre vie, quand même.
C'est ça.
Oui, un peu.
Je raconte sa vie, en fait.
Oui.
Elle a une sacrée vie, hein.
Ouais.
Elle est puissante, hein.
Ouais. J'avais jamais fait ça, en fait, de lire des passages d'un livre comme ça, et j'aime beaucoup.
Un des moments que je préfère dans La nuit ne dure pas, c'est quand vous êtes adolescente encore et vous envoyez une lettre de candidature pour être balayeuse sur le paquebot France. Elle avait tellement envie de partir de chez elle.
Pourtant, j'ai des parents extraordinaires et tout ça, mais quand on est ado ou je sais pas, à 18 ans à Perpignan ou à 17 ans, j'avais qu'une envie, c'était de partir plutôt que de vendre des chaussures. Alors j'ai dit, comme le paquebot France faisait des trucs, mon père il m'a jamais donné la réponse.
Ah,
il a pris la lettre et il me l'a jamais rendu, me l'a montré 2 ans après.
Ah oui, il vous avait accepté finalement?
Non.
Bon, pas de regret alors.
Qu'est-ce qu'on fait quand on a 17 ans, des trucs? Ouais. Hein.
Vous faisiez quoi quand vous aviez 17 ans, Emmanuel Messeigné?
Moi, j'étais mannequin à 14 et j'allais au lycée et j'ai eu mon bac. Voilà.
Dany est devenue mannequin en arrivant à Paris.
Non, mais parce que ça, c'est l'inconscience. Moi, je lisais Jour de France à Perpignan. Je suis allée sur les Champs-Élysées et j'ai vu Jour de France. J'ai dit, tiens, je vais rentrer pour voir s'ils veulent que je fasse des photos. Eh bien, figure-toi que oui, ils ont dit oui. 15 jours après, je faisais des photos. Après, je suis rentrée dans une agence. Évidemment, il y avait Hélène April à l'époque, qui était la fiancée de Vince Taylor. Elle est arrivée avec une vanity case comme ça, pleine de crayons, vert, toutes les couleurs qu'on fait, tu sais, les vernis à ongles, tout ça et tout. Et moi, j'avais une petite poche comme ça, avec juste... le recourbe-cils, là. Et puis, juste ici, du vert gris pour mettre aux yeux. Eh bien, écoute, c'est moi qui ai eu la couverture.
Et ce que j'adore, c'est que la première chose qu'elle a faite à Paris en arrivant à Paris de Perpignan, c'est d'aller s'acheter des cuissardes chez Charles Jourdan.
En chevreau Bordeaux, s'il te plaît. Ça devait valoir aujourd'hui, je ne sais pas, une blinde. Mais mon père qui m'avait donné des sous en loose, un peu comme ça, j'étais les acheter tout de suite, quoi. J'étais dingue de ces bottes.
À l'époque, il faut dire, c'était les mini-jupes. Hein. Qui
oui.
Dit mini-jupe dit forcément cuissard. Dans...
C'est ça, c'est ça.
Évidemment. C'est quoi votre acte fondateur à vous?
Peut-être un perfecto.
C'est l'histoire que vous m'aviez racontée à Jean que j'adore. C'est quand vous avez déjeuné avec François Mitterrand.
Ah oui.
À un moment, il y a Georges Kijman qui est là.
Il me dit, c'est quoi ton premier événement historique? Et moi, là, j'étais en panique parce que je ne connaissais rien du tout. Et François Mitterrand a dit son premier blouson de cuir.
Je trouve que l'histoire est belle.
Extra celle-là, elle est extra.
Elle est vraie.
Oui, elle est vraie.
Ouais.
Il était comment, François Mitterrand, à table?
Bah, il était.
Pour une jeune femme.
Bah, moi, j'étais assise à côté de lui et je me rappelle, j'arrêtais pas de. Je mangeais très salement et je n'arrêtais pas de lui mettre de la salade sur sa veste. C'était drôle. Il était très intimidant.
Très?
Très. Ouais. Très. C'était un roi un peu ouais. Comme ça.
Il avait quel âge à ce moment-là? 45-50? Si toi, tu avais 16 ans.
Plus que ça.
Bah ouais, tu vois, donc c'est impressionnant, monsieur.
Super intimidant. Puis il était président de la République.
Ouais.
Quand même.
Et Jean-Luc
ça
Godard,
fait la blague.
Au tout début, il est très impressionnant aussi, non?
Ouais, moi, je n'étais pas fan de Jean-Luc Godard. Il n'était pas. Non, c'était pas... il ne m'impressionnait pas.
C'est lui qui vous a fait débuter dans Détective.
Ouais, c'est lui qui m'a fait débuter.
Ensuite, il y a eu Frantic de Roman Polanski. Qu'il était impressionnant, Polanski?
Non, il était charmant. Il n'était pas impressionnant.
Personne ne vous impressionne à part les présidents de la République.
Ouais, c'est ça. C'est les présidents qui m'impressionnent.
Oui, on peut le comprendre.
C'est la fonction républicaine.
Et vous, Dany, qui vous a le plus impressionné parmi les centaines et centaines de gens célèbres que vous avez croisés?
Le monsieur qui m'a le plus impressionné, j'allais m'acheter des collants aux Champs-Élysées pour passer à l'Alcazar. Et j'ai vu Robert Redford descendre les Champs-Élysées avec une casquette. Je me suis arrêtée et je lui ai demandé un autographe. J'étais dingue de ce... Ah non, Robert Redford.
Vous étiez déjà connu à l'époque.
Oh, je crois pas.
Enfin, pas par Robert Redford, mais en
non,
France.
Non, mais bon, c'était magnifique. J'étais avec un copain, il descendait les Champs-Élysées, j'étais avec mon fils, je me rappelle. Et j'ai dit, ah, là, je devais avoir l'air d'une midinette, mais grave.
Ben là, il n'y a plus personne à Pigalle de connu hein, qui se promène.
Non.
C'est plus le quartier... où on rencontrait des gangsters, des grandes prostituées, des musiciens, des actrices.
Je sais pas, ils doivent se balader quand même encore, non? Mais les temps ont changé aussi.
Ouais.
Il n'y avait pas les téléphones, donc il fallait faire des plans d'habitués. Tu regardais quelqu'un dans un café, il fallait revenir le lendemain voir à la même heure s'il y était.
Et ça arrivait qu'il y soit encore?
Ben, ça dépend. Hein. Les habitués du Flore, les habitués des deux magots, tout ça. Enfin bon, comme ici. Hein.
C'était à la fois plus simple et plus compliqué.
Oui, mais c'était plus émouvant aussi. Il y avait une espèce d'émotion particulière pour quand tu voulais, comme à Saint-Germain, je sais pas.
Emmanuel est un peu nostalgique, je suis sûr, de cette époque qu'elle n'a pas connue.
L'époque que j'ai connue, c'est-à-dire fin 80, 90, c'était plus gai quand même.
Ah bon ?
C'était plus gai.
C'est peut-être parce qu'on était plus jeunes.
Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'était un autre monde.
Vous vouliez être Mick Jagger, vous ?
Ouais, moi je voulais... Non, je voulais faire de la musique, moi. J'ai... Mais c'est vrai qu'en France, au meilleur des cas... Dans mon cas, on peut faire un album avec Gainsbourg, ce qui était très bien.
Ouais.
Mais c'était pas ça que je voulais, moi. Je voulais vraiment être Lou Reed, quoi.
Plus rock. Beaucoup plus rock.
Être les Stooges.
Europe 1.
On se retrouve toujours boulevard Rochechouart. On va en direction de la cantine de la Cigale avec Dany et avec Emmanuel Seignier.
Jusqu'à midi sur Europe 1, on écoute ensemble les meilleurs moments en balade de Frédéric Taddeï.
Avec Dany et Emmanuel Seignier, nous sommes en balade sur le boulevard de Rochechouart, dans Pigalle. Le boulevard de Rochechouart, pour vous donner une idée, le prix moyen du mètre carré, c'est 9000 euros. C'est plus cher qu'à la Goutte d'Or, c'est moins cher qu'à Montmartre, qui est juste au-dessus, évidemment. Pigalle, ce fut la prostitution, le milieu, la débauche, mais c'est, et ça a toujours été, la musique. Hein. Tous les magasins d'instruments sont ici, des vitrines devant lesquelles vous avez rêvé, Emmanuel Seignier.
Oui, un peu.
J'avais joué d'instruments.
On devait prendre des cours de guitare électrique d'ailleurs, toutes les deux, et puis on n'a pas fait.
On a les guitares, mais on ne sait pas en jouer. On va le faire.
Dany a une drôle d'histoire avec l'Eurovision. Elle vous l'a raconté. Elle le raconte dans...
Mais je raconte dans le spectacle.
Raconté, c'est moi qui le raconte. Il faut le raconter aux auditeurs dans Balade avec. D'abord, il y a eu « Il n'y a pas de mal à se faire du bien
hein, ». Oui, c'est ça.
C'était une chanson qui avait été sélectionnée pour l'Eurovision.
Absolument.
Mais vous n'avez pas pu la chanter.
Et non, parce que le président Pompidou nous a quittés.
Et donc, la France n'a pas pu se présenter à l'Eurovision. On était en deuil.
Voilà, c'est ça.
Et l'année suivante, il vous demande à nouveau.
Oui.
Et là, vous arrivez avec une chanson de Serge Gainsbourg.
Oui, voilà. Et ils n'ont pas trouvé la chanson très bien.
Oui.
Ils l'ont trouvée trop trash.
Trop trash. La chanson, aujourd'hui, tout le monde la connaît, mais elle est restée très longtemps sur une étagère. Hein.
Oui, au moins 25 ans, je crois.
Et voilà. 25 ans sur une étagère. Et à la fin, vous la chantez avec Étienne Dao, avant de la chanter maintenant avec Emmanuel Seignier. On va écouter la version avec Dao.
D'accord.
Comme un boomerang.
Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à ma bringue et ton amour m'ont épuisé. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce que
cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher, peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés.
À t'aimer comme une dingue, prête pour toi âme damnée.
Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer.
Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer.
Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue,
c'est à toi que je le devrais.
Mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'accord que j'ai taillé.
C'était Comme un boomerang, interprété par Dany et Étienne Dao, 25 ans après que la chanson ait été composée par Serge Gainsbourg. Comment ça s'est déclenché, Dany, pour que vous deveniez chanteuse? Vous étiez mannequin, pourquoi chanteuse?
Alors, moi, dans mon enfance, j'étais bercée par un papa qui adorait les comédies musicales et tout ça. Donc, je connaissais tout de Mistinguette, Fréhel, Edith Piaf, évidemment, Maurice Chevalier, tout ça. Donc, j'ai toujours un peu chanté. Et puis, quand j'ai rencontré Jean-Marie Rivière, qui m'a dit « Oh, mais toi, tu connais le répertoire de tout ça, tu vas chanter. » Et puis, les mecs de IMA, ils m'ont dit « Oh, tu seras très bien sur la couverture de disque. » Vas-y, j'ai commencé comme ça. Et au studio...
En fait, sur le physique, quoi. Sur ouais, le physique.
Et au studio... On coupait encore les bandes comme ça avec les ciseaux. Les ciseaux. J'avais au moins, je ne sais pas combien.
Ouais, parce que vous chantiez que... faux ?
Non, parce que je ne chantais pas dans le rythme, je ne chantais pas en place et qu'ils en avaient un peu marre. Quoi.
Et vous, Emmanuel Seigné, ça a commencé comment ?
Alors moi, ça a commencé tard dans ma vie. J'ai rencontré Gilles, justement, de Ultra Orange.
C'est une femme. Hein.
Gilles, c'est une femme.
Elle, on la verra tout à l'heure.
Elle faisait les costumes d'un film qui s'appelait Backstage.
Le film d'Emmanuel Berco, vous jouiez une chanteuse.
Je jouais une chanteuse, mais de variettes. Et j'aimais pas du tout les chansons que je chantais. Mais elle me disait, ah, t'as une voix super, avec mon mec, on a un groupe. Et on aimerait bien faire de la musique avec toi. Et donc, ils m'ont fait des chansons. Et c'était mon premier album, Ultra Orange et Emmanuel.
On la verra tout à l'heure, Gilles Le Sage, elle sera à la librairie des Abbesses. Et d'abord, on a rendez-vous à la cantine de la Cigale. La Cigale, grande salle de concert, également sur le boulevard Rochechouart. C'est dingue, hein, tout est ici.
Ouais.
C'est dingue.
C'est une belle salle, la Cigale.
Tu l'as
fait ? J'étais sélectionnée avec Carla Bruni, Bruno Cali, par les Inrecuptibles, chanteur de l'année, chanteuse de l'année. C'était super le concert. Super salle, la Cigale.
Emmanuel rêve d'y chanter.
Ben, on va y aller, on va le faire.
Ouais.
Bientôt.
Bientôt.
Vous déplacez comment dans Paris, toutes les deux ?
Moi, en voiture.
Moi, ça dépend. Métro, autobus ou les voitures là, qu'on appelle...
Ah oui.
Et Uber.
Non, l'autre.
Chauffeur privé.
Non.
Taxify. Moi, je déteste me faire conduire.
Ah oui ?
Ouais, je supporte pas.
C'est parce que vous adorez conduire.
C'est ça.
Et vous avez toujours votre permis ?
Ouais.
Comment vous avez fait ? Tous vos points ?
Non, il me manque deux.
Seulement ?
Ouais, ouais. Parce que je suis très disciplinée au fond.
Vous êtes moins autodestructrice qu'on ne pourrait le croire.
Mais je vous dis, je suis une punk structurée.
Nous voilà devant la cantine de la Cigale, boulevard Rochechouart. On a rendez-vous avec qui ici ?
Émilie Marsh.
Émilie Marsh, c'est votre guitariste ?
Oui, préférée.
Mais vous allez nous la présenter.
Frédéric Taddeï, en balade avec Emmanuel Seigné et Dany sur Europe 1.
Allô ? C'est moi, j'ai réussi à avoir une table en terrasse. T'arrives bientôt ? Hein ? La prime à la conversion actuelle se termine le 31 juillet. Et t'es parti chez ton concessionnaire Opel. Ben oui, l'Opel Karl avec 5 portes et la climatisation à partir de 4 990 €. Oui, il faut en profiter maintenant. Après le 31 juillet, c'est trop tard. Ben c'est ça, profites-en bien alors.
Offre réservée aux particuliers non imposables sous conditions de reprise, super prime à la conversion gouvernementale de 4 000 € et éco-prime Opel déduite. Conditions sur opel.fr.
4 ans ? C'est fou tout ce qui peut se passer en 4 ans. On peut avoir un nouveau boulot, un nouveau frigo, ou même des nouveaux rideaux. On peut avoir des nouveaux amis, de nouvelles envies, et pourquoi pas, une nouvelle chérie. La vie est pleine de surprises.
Par contre, avec Avantage Gaz d'EDF, aucune surprise. Pendant 4 ans, le prix du kilowattheure de gaz reste fixe. Et ça, ça change tout. Appelez le 3004 ou rendez-vous sur edf.fr/avantagegaz. Service et appel gratuit, offre de marché préfixe du kilowattheure hors taxe. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Jusqu'à 12h30, avant de retrouver un journal complet de la rédaction d'Europe 1, on réécoute ensemble les meilleurs moments, les plus belles balades de Frédéric Taddeï. On le retrouve aujourd'hui dans l'une des salles mythiques, une salle de concert mythique parisienne.
Nous sommes toujours en balade avec Dany et Emmanuel Seignier à la cantine de la Cigale, 124 boulevard de Rochechouart, un endroit célèbre pour son bar mais aussi pour sa terrasse chauffée où il y a toujours beaucoup de monde, y compris l'hiver. Nous sommes avec Émilie Marche, la guitariste du groupe, quand elle part sur scène interpréter La nuit ne dure pas, spectacle musical tiré de l'autobiographie de Dany.
Ce sont des souvenirs, hein, parce
des
que
souvenirs,
non, s'il te plaît.
Parmi les souvenirs, il y en a un dont je me souviens. C'est quand vous tournez La nuit américaine, le film de Truffaut, dans lequel vous jouez la strip girl. Et il y a Jean-Pierre Léo qui doit à un moment vous mettre la main entre les cuisses et qui n'y arrive pas. Il va mettre 3 heures pour y parvenir.
J'avais un blue jean. Il lui dit, tu lui mets la main là, comme ça. Jean-Pierre, grosse goutte de transpiration, il s'en va, il appelle François, ils s'en vont 1 heure. Il lui dit, mais regarde, c'est pas compliqué. Alors François lui montre, enfin, ça a duré 3 heures avant qu'il le fasse. Mais il était mignon, il est mignon Jean-Pierre.
Vous avez eu ce genre de problème, Emmanuel ?
Non, hélas.
Pourtant, des scènes sexy, vous en avez joué.
Pas tellement, finalement.
Non,
non.
Pas
tant
que ça. C'est peut-être moi qui vous trouve toujours sexy, même dans les scènes pas sexy.
C'est ça. Non, mais dans Lune de Fiel, un peu.
Beaucoup.
Parce que c'était un peu le sujet de l'histoire, mais sinon, non, pas trop. J'aime pas trop ça, d'ailleurs.
Ah oui ?
Je trouve que le sexe au cinéma, c'est toujours nul.
La suggestion,
c'est
bien.
Mieux.
Oui, voilà.
Bien sûr.
Mais les scènes de sexe pur, je trouve que c'est pas intéressant.
C'est une spécialité française, souvent.
Ouais, peut-être. Ouais.
Mais les Françaises se déshabillent plus en tant qu'actrices que les Américaines, par exemple.
Ah oui, mais elles sont moins prudes.
Vous n'aimez pas tellement la nudité, hein, Dany ?
Ah, mais moi, je suis nul. Enfin, il n'y a rien à voir chez moi. Donc, c'est pas la peine de montrer, il n'y a rien à voir.
Comme elle est modeste.
Mais non, mais c'est vrai,
tout
j'ai,
à
pas
voir.
De, j'ai pas de toutoune, j'ai pas les fesses de Marilyn, enfin, il n'y a rien à montrer, quoi. Donc, c'est pas la peine. C'est vrai. Moi, j'ai rêvé d'avoir des seins comme ça.
Ah non, mais moi, je trouve que c'est justement plus joli comme tes toi.
Ben écoute, tu vois, on n'est jamais content de ce qu'on a.
On veut toujours ce qu'on n'a pas. Hein. C'est toujours comme ça, comme les cheveux, c'est pareil.
C'est ça.
Il faut dire, en parlant de cheveux, qu'Émilie Marche les a totalement dans les yeux. Très décoiffé,
oh, c'est son style.
C'est la mode
c'est
aujourd'hui.
Son style, il est stylé.
Non, mais on est toutes les trois différentes, c'est ça qui est intéressant aussi.
Ah oui, complètement différentes.
À tous les âges, l'ancienne.
C'est vous.
La middle.
Moyenne, la middle et la jeune qui monte.
Émilie, vous qui êtes chanteuse, normalement, vous avez déjà sorti un album. Et
c'est
le nouveau, ça s'appelle comment ?
Le nouveau portera mon nom.
Voilà. Émilie Marche.
Pas de titre, oui.
Voilà. Et pourquoi vous ne voulez plus parler de celui qui est sorti il y a
parce que non, mais c'était une étape, mais ce que je fais aujourd'hui est très, très, très différent. À l'époque, je ne faisais même pas de guitare électrique, tout ça. Et
non, c'était que du piano, c'était
ouais,
très romantique.
Ouais, c'est ça, c'était très orchestré, avec plein de cordes, enfin, un truc que je ne ferais plus du tout aujourd'hui. Mmh. Du coup, ça me paraît comme un autre projet, une autre version, autre chose, quoi. Ça me paraît un peu une autre vie, mais c'était il y a 6 ans quand même, donc ça remonte.
Donc plus rock.
Ouais, plus rock, plus brut, plus. Enfin voilà, ça me correspond plus en tout cas.
Écoutez le bas du ventre, ou la peur que l'on nous plante, prendre un verre fatal, ou la diagonale, quand ça devient trop facile, au geste préféré, le style, autre solution, devenir le garçon.
Comment expliquez-vous que le rock est arrivé à survivre à la disco d'abord, mais ensuite au rap,
les R&B.
Disques qui se vendent, R&B.
Parce que, c'est simple,
mais
c'est
parce que en fait, le rock, pour moi, c'est aussi une histoire d'énergie
très organique aussi.
Et d'attitude. Et c'est pas seulement un son, c'est aussi au-delà une façon de, une manière de faire, une manière de bouger, une manière de jouer, qui est dans l'énergie en fait. C'est comme ça que je vois ça. Et moi, le plaisir que j'ai à jouer de la guitare électrique, c'est vraiment un truc que je peux pas expliquer. C'est très corporel, c'est très animal en fait.
Mais j'imagine qu'autrefois on éprouvait un grand plaisir à jouer de l'accordéon, néanmoins on a cessé de jouer de l'accordéon. Et moi je dois dire, dans les années 90, je pensais que la guitare électrique allait disparaître comme l'accordéon, qu'on n'allait plus faire que des claviers, des synthés.
Il y en a moins quand même.
En tout cas,
dans les prods d'albums, ça, il y en a moins.
J'ai l'impression que ça revient un peu peut-être.
Parce que le rock, c'est, au fond, c'est quand même devenu un peu la variété de notre époque.
Bah, ça dépend du rock. Il y a du rock variété, il y a du rock pas variété.
Ce que font les Liminianas, typiquement,
oui. C'est pas du tout variété.
C'est du super bon rock.
Ce que fait donc Emmanuel avec eux.
Voilà, c'est ça. Enfin, ce qu'ils font, c'est, pour moi, c'est un exemple de super groupe de rock actuel. Quoi.
Europe 1.
Et nous, on va se diriger vers la librairie des Abbesses. Vous avez décidé toutes les deux de nous emmener. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure.
Bien sûr.
Bien sûr.
On continue de se balader doucement mais sûrement dans les rues de Paris en compagnie de Frédéric Taddeï. On le retrouve à présent avec Dany et Emmanuel Seigné, rue des Martyrs, à cheval entre le 9e et le 18e arrondissement.
Et nous voilà rue des Martyrs avec Dany et Emmanuel Seigné. On se dirige vers la librairie des Abbesses et on va y aller en musique. Je propose d'écouter un de vos premiers titres, Emmanuel Seigné, c'était avec le groupe Ultra Orange. Ça s'appelait Sing Sing, je crois que vous l'interprétez sur scène
aussi.
Avec Dany. On vous écoute dans Sing Sing. C'était Sing Sing, interprété par Emmanuel Seigné et Ultra Orange, une allusion à la prison américaine, la prison de Sing Sing, et à l'amour.
Et à l'amour, qui est un peu une prison.
C'est vrai ?
Un peu, non ?
Non, je ne sais pas.
Un peu.
On s'en prisonne quand on est amoureuse.
Bah forcément, parce qu'on fait toujours un peu des compromis.
Rue des Martyrs, il y a le célèbre cabaret Michou.
C'est là où j'ai rencontré mon mari.
C'est vrai ?
C'est vrai.
Roman Polanski, chez Michou.
Chez Michou.
Michou, avec son spectacle de travesti.
Oui.
Et Michou, forcément, ça me fait penser à l'Alcazar, vous en parliez tout à l'heure. C'était le grand cabaret de la fin des années 60 à Paris, avec Jean-Marie Rivière et Dany et 90 artistes. Même les serveurs étaient chanteurs à l'époque. C'était le haut lieu branché de la capitale. C'était fantastique.
Incroyable.
Je dis ça, mais j'y étais pas. Il y avait Jean-Charles de Castelbajac, il y avait les Pink Floyd. Il devait y avoir Roman Polanski, je suis sûr qu'il est venu.
Bernard Buffet, enfin Nourieff.
Tu connaissais d'ailleurs Roman?
Oui,
à cette
je connaissais
époque.
Roman avant Emmanuel. Bien sûr, j'ai rencontré au Flore Roman avec Gérard Brache, un couple.
Gérard Brache qui était le scénariste
oui,
à l'époque
avec Roman.
De Roman. Ouais.
Deux êtres super attachants, adorables. Tout.
Racontez-nous ce que c'était l'Alcazar pour tous ceux qui ne l'ont pas connu.
Alors, l'Alcazar, c'était un compromis entre la revue de l'ancienne époque et un spectacle de chansonniers. Parce que Jean-Marie Rivière était quand même tous les soirs, il racontait les ragots de Paris quoi sur,
oui,
sur la scène. Donc c'était lui la vedette en fait.
Et il apostrophait les gens du public.
Oui, c'est ça.
C'était à l'ancienne quoi. C'est ici que ça a démarré.
Oui,
le Chat Noir, boulevard de Rochechouart, c'était là où ont débuté les premiers chansonniers. Hein.
Marc Lenis, il y avait des travestis qui faisaient alors genre un peu comme Fernand Reynaud, qui c'était des mecs qui se déguisaient en gonzesses. Et après il y avait les ces êtres exceptionnels, maquillés, avec des paillettes, partout, des maquillages qui duraient. Elle se maquillait pendant 4 heures et elle faisait des apparitions incroyables. Ça subjuguait.
Quel rapport avec Fernand Reynaud?
Non, parce que Fernand Reynaud, il a commencé un peu plus bas.
Ah oui, chez Madame Arthur, là?
Oui, il a commencé chez Madame Arthur et il se mettait en grossesse des fois.
Ah oui?
C'est lui qui me l'a raconté.
Mais tous les humoristes, tous les acteurs comiques, un jour se sont habillés en femmes. En général, c'est là qu'ils ont leur plus gros succès.
Céreau l'a fait, enfin tout le
oui,
monde.
Oui, jusqu'à Gad Elmaleh.
Ouais.
Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette même tradition, à un moment ou à un autre, une actrice doit tenir un rôle d'homme?
Moi, j'adorerais.
Ça vous est jamais arrivé, Emmanuel Seigné?
Non, jamais.
Non, c'est assez rare.
J'adorerais jouer un mec. Bah, Al Capone.
La rue des Martyrs, c'est vrai que ça fait penser aussi aux gangsters et à la prostitution. Des gangsters, vous en avez connu pas mal. Est-ce que vous le racontez dans le spectacle?
Non.
Pourquoi vous avez préféré pas
Non, mais je ne sais pas pourquoi. Partie. Comment on a choisi les extraits?
Parce que dans La nuit ne dure pas, vous racontiez l'aventure, évidemment. Vous avez tenu cette boîte de nuit qui appartenait à l'époque aux frères Zemmour. Après, il y a eu Gaëtan Zampa qui voulait vous engager.
Non, alors moi, les histoires avec les Zemmour, j'ai jamais compris pourquoi on avait collé cette étiquette. Moi, je l'ai eu. J'ai fait ça parce que M. Delon avait rencontré Nathalie dans cet endroit qui était...
Nathalie Delon.
Ouais. Nathalie Delon. Et il voulait absolument faire son club. Après, moi, j'avais des rapports avec la police de nuit qui protège les établissements et les voyous. J'ai eu que Gaëtan Zampa.
Ouais, Gaëtan Zampa qui voulait vous faire tenir une boîte de nuit avec son Provence.
Voilà, c'est ça.
Et pourquoi ça s'est pas fait?
Parce que j'habitais à Paris et que je pouvais pas aller passer tout ce temps là-bas. Et puis je me suis dit, il faut pas se mettre dans cette aventure-là. Bien que le mec soit super sympa, je suis toujours amie avec sa fille. Et
Puis il s'est suicidé des années plus tard dans sa cellule.
Oui, c'est ça.
Et il y a eu Marcel Francisi aussi qui voulait vous engager.
Non, Marcel Francisi, il a offert les 18 ans à son fils à l'aventure. C'était énorme.
Dany, l'idole des voyous.
Je crois pas que j'étais l'idole des voyous, mais bon. En tout cas, c'était des personnages très polis, très respectueux. Je vais pas faire l'apologie, après je savais pas ce qui se passe dans leur vie. Hein.
Europe 1, en balade avec Dany et Emmanuel Seigné, Frédéric Taddeï.
Que l'on retrouve toujours dans le nord de Paris.
En balade avec Dany et Emmanuel Seigné, nous voilà Place des Abbesses, l'une des plus jolies places de Paris, avec sa bouche de métro, l'une des dernières surmontée d'un édicule de Guimard qui nous rappelle la belle époque. Il y a également le manège. Vous aimez le manège, toutes les deux?
J'adore.
Moi, j'adore aussi.
Je vous vois toutes les deux regarder le manège avec une telle envie.
On va faire un petit tour, Dany.
Oui, on y va.
Le manège.
Je viens.
Cette place est également célèbre pour sa fontaine Wallace, qui est pas loin. C'est vraiment là, on est vraiment dans le Paris de Doineau, le Paris qu'affectionnent les touristes, avec le square derrière nous et le mur des Je t'aime. Vous connaissez le mur des Je t'aime?
Ouais, ouais.
Il y a, je crois, 315 Je t'aime écrits dans 250 langues différentes. Emmanuel Seigné va nous dire que c'est la prison de l'amour.
Absolument.
Toujours romantique.
Elle n'a pas tort, hein?
Elle n'a pas tort, non?
Ah bah non.
C'est marrant comme les femmes sont devenues cyniques et taciturnes. Ouais. Les gars, de ce qui normalement fait rêver la terre entière.
Ouais, vite fait, quoi.
C'est devenu une attraction, d'ailleurs. Il y a de plus en plus de touristes devant le mur des Je t'aime, qui se trouve dans le square, devant lequel on se dirige. Vous ne trouvez pas qu'il y a de plus en plus de touristes dans Paris?
C'est vrai. Il y a beaucoup de Chinois, là.
Tout le monde fait des selfies devant le mur des Je t'aime.
C'est marqué « Aimer, c'est du désordre ».
Alors, aimons. Et c'est
Rita Hayworth.
C'est Rita Hayworth, oui, dans Gilda.
Ouais.
Mais la robe, elle était bleue?
Non, elle n'était pas bleue. Bah, elle était en noir et blanc.
Ah, oui, c'est vrai.
Est-ce que vous faites des selfies, toutes les deux?
Mais quand on le demande, oui.
Ouais.
Mais toute seule, non, jamais.
Bah, enfin... Si, moi, ça m'est arrivé.
Ah. Pourquoi?
Quand je suis au bout du rouleau.
Je croyais que c'était quand je suis au bout du monde. C'est là qu'on fait des selfies,
non,
normalement.
Quand on est au bout du rouleau, je crois.
Ça sert à quoi de se voir au bout
se
du rouleau?
Voir comment on est, pas si mal ou pas.
Ou atroce.
Ou atroce.
Ça permet de remonter à la surface. Là, les gens se prennent en photo devant.
C'est
drôle. Oui, c'est une vraie cérémonie. Hein.
C'est joli. Hein.
Dany, la chanson de vous que je préfère, on parlait tout à l'heure de Frédéric Beton, c'est une chanson qui s'intitule La Machine.
Oui.
C'est une chanson que j'adore. Vous l'avez refaite d'ailleurs quelques années plus tard, en 93, dans une nouvelle version, mais moi je préfère la première version, celle de 66-67.
Oui, bien sûr.
66, c'est l'année de ma naissance.
Voilà.
Tu te rends compte? Oh. Et moi, je devais avoir 20 ans, 25 ans, j'en sais rien. Écoute-moi, non, mais ce qu'il y a, c'est que La Machine, elle a séduit un groupe avec lequel j'ai fait un disque qui s'appelle Les Stranglers.
Oui, sacré groupe.
Voilà, et donc c'est eux qui ont remis... Jean-Jacques Burnel, il adore cette chanson, il la joue de temps en temps sur scène. Et moi, j'adore cette chanson, quoi. Frédéric Beton, il a une écriture. Et puis cette chanson sur La Machine, quoi, qui veut rien dire, un gadget, quoi.
Ah, je suis pas sûr que ça veut bien rien dire. Écoutez-la bien. Je suis sûr qu'en fait, sans le savoir, il parlait du téléphone portable. Mais il ne le savait pas. Ah oui, écoutez les paroles, écoutez.
Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Chaque fois que j'y mets 20 centimes, elle me répond merci bien. Il y a des boutons partout, les boutons ça me rend dingue. Je les allume tous d'un coup, ça fait plus de bruit qu'un flingue.
Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Chaque fois que j'y mets 20 centimes, elle me répond merci bien. Il y a des boutons partout, les boutons moi ça me rend dingue. Je les appuie tous d'un coup, ça fait plus de bruit qu'un flingue. Je me suis acheté une machine. Seule chose qui m'ennuie, c'est qu'elle me pique mes centimes. Je me suis acheté une machine à reculer le temps. Je la mets dans ma cuisine, pour les œufs c'est épatant. Il y a des lumières partout, le néon moi ça me rend dingue. Je les allume tout à coup, elles se reflètent sur le zinc. Je me suis acheté une machine à l'hydroflex. Et je ne sais plus rêver, mais je sais qu'un jour viendra. C'est sûr, je prendrai le dingue, je la jetterai loin de moi pour ne plus voir ce batringue. Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Un gadget, un coup de centime, sans doute j'en avais besoin. Sans doute j'en avais besoin. Sans doute j'en avais besoin.
Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il parle sans le savoir du téléphone portable? Sûrement. Une machine a tué l'ennui, une machine qui ne fabrique rien. Il y a des boutons partout, il y a des lumières partout. Elle prévoit tout.
Elle prévoit tout ce qu'on
devine. C'est le téléphone portable.
Il y a, oui, oui, c'est, ah bah, tu vois, visionnaire, Frédéric Beton.
Le smartphone,
quoi.
Il parlait du smartphone. Vous parliez du smartphone, tous les deux, il y a de cela presque plus de 50 ans.
Lui, hein.
Après le concert aux Étoiles, vous allez partir en tournée?
On a quelques concerts, oui, bien sûr.
C'est amusant, les tournées?
Oui, moi j'aime beaucoup. Ouais. On est hors du temps, c'est des moments hors du temps, suspendus comme ça. On est ensemble, ailleurs, il n'y a pas la pression.
Là, vous serez contre fille en plus.
Ouais.
Oui, on a quelqu'un, un mec à la lumière quand même.
Ah, quand même.
Oui.
Il est vénard. Il va se retrouver avec Dany, Emmanuel Seigné et Émilie March.
Plus Audrey au son.
Audrey, ouais. Ouais.
C'est encore une femme, évidemment.
Elodie.
Elodie, manager.
Est-ce qu'on peut vivre complètement en autarcie, rien qu'entre femmes aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez vous passer complètement de nous professionnellement?
Bah oui.
Ouais. Professionnellement, oui.
Et ce serait mieux, vous croyez?
Je sais pas si ce serait mieux,
non,
mais...
Non, ce serait pas mieux.
Mais moi, j'aime bien les mecs, donc...
Moi aussi.
Là, c'est bien, quoi. Mais bon, les mecs, quoi, quand même.
On a encore un peu d'avenir. Là, je crois qu'on est devant une librairie, la librairie des Abbesses, qui en plus est tenue par une femme.
Bien sûr, Marie-Rose.
A été créée par une femme. Marie-Rose, ça me fait penser que vous avez été rosiériste.
Oui, mais je suis toujours. Hein.
Ouais.
J'adore.
Vous vendez des roses, uniquement des roses. Hein.
Que des roses, oui.
Que des roses.
Oui.
Et Marie-Rose, c'est elle qui tient la librairie. Alors, vous allez nous la présenter dans un instant.
Vous souhaite de très bonnes vacances à l'écoute d'Europe 1 avant de retrouver à midi et demi le journal de la mi-journée. On continue notre balade avec Frédéric Taddeï.
Alors, déjà pour ton anniversaire, Dany, on a quelque chose. Hein. Bon, attention.
Donc, c'est Marie-Rose Garnieri qui est en face de nous, qui tient la librairie des Abbesses, sur la place des Abbesses, plus exactement dans la rue Yvonne Le Tac. Hein. Alors, présentez-nous, Dany, c'est votre copine.
Alors, je vous présente Marie-Rose, qui est une amie à moi, qui m'a fait redécouvrir la lecture il y a quelques années, bien quelques années. Et alors, c'est une femme formidable, parce qu'on rentre dans cette librairie, vous arrivez, vous dites, par exemple, oh là là, je suis triste, je m'en vais en voyage avec un mec que je supporte pas et tout. Et d'un seul coup, elle te sort le livre qui te subjugue l'histoire ou qui te fait prendre des décisions catégoriques. Donc c'est merveilleux. Et en dehors de ça, elle m'a beaucoup aidée pour qu'on fasse La nuit ne dure pas, justement.
Ah oui, en quoi?
Rewriting, les mots français, les tournures de phrases.
On a pensé ce livre ensemble, on a travaillé ensemble. On a...
Et c'est Emmanuel sur scène qui te remercie
pareil,
à chaque fois.
Mais oui, je suis très touchée, Emmanuel.
Alors, il y a plein de livres autour de nous avec le bandeau conseillé par la librairie des Abbesses.
Oui, c'est vrai.
C'est pas rien.
Ah, ça, c'est, voilà, c'est une petite touche parce qu'on n'aime pas écrire sur les livres. Il y a des libraires, vous savez, qui écrivent dessus. Nous, on n'aime pas écrire sur les livres parce que je trouve qu'il faut qu'on soit pas à cette place-là.
Il y a des libraires, faut dire, qui donnent leur avis,
oui,
ils font des petites fiches sur les livres.
Mais non, je trouve ça trop scolaire.
Donc
et moi,
ceux qui n'en ont pas, c'est ceux qui sont moins bien.
Non, ils sont là. Tous ceux qui sont là, ils ont été choisis un par un. Il n'y a pas un livre ici qui soit rentré quand on l'est choisi, désiré. On comprend pourquoi il est là et pourquoi il y en a qui ne sont pas là. Voilà. Mais parfois, on signale quand ce sont des auteurs moins connus.
D'accord.
On veut comme ça attirer l'attention en mettant ce petit bandeau, voilà, qui donne une indication.
Et qu'est-ce qu'elle vous a fait lire récemment?
J'ai lu André Chédide.
André Chédide, la poétesse, la grand-mère de alors la mère de Louis et la grand-mère de Mathieu, voilà.
Voilà.
Ça, ah oui, adoré. Grande poétesse.
J'ai des beaux livres.
Oui, il y a des très beaux livres.
Vous êtes une grande lectrice, vous aussi, Emmanuel Seigné?
Hélas, non, mais j'aime beaucoup les livres.
La présence, ça aussi, ça a une existence aussi. Hein,
c'est ça.
Ça nourrit l'être aussi. Hein.
C'est ça.
Peut-être le privé plaire aussi.
Ah,
hein.
Oui, merci de signaler. Frédéric, ça fait plaisir.
2000 prix littéraires qui sont remis chaque année en France.
Mais quand même, on est dans les 10 grands prix quand même. On est dans la course des 10. On est avec le Flore. Vous êtes, il y a le Renaudot, le Femina. C'est des prix quand même qui ont un impact, on va dire, sur la suite après ce prix. Quoi. Voilà. Donc c'est un prix quand même qui amène quelque chose.
Et pourquoi vous aviez eu envie de créer un prix littéraire, à part le fait qu'en France, tout le monde crée des prix littéraires?
La nécessité, elle est née quand je suis arrivée à Montmartre parce que j'ai senti qu'à Montmartre et dans les rentrées littéraires, il y avait des livres très importants et des auteurs très importants qui défiaient les institutions, qui défiaient la langue, qui défiaient le roman, qui apportaient beaucoup de choses à la littérature et qui n'étaient plus cités au sein des listes. Et je me suis dit, c'est pas un prix de plus que je veux faire, c'est un prix qui défend en fait des gens de l'en dehors, comme les écrivains qui étaient à Montmartre, des gens qui n'écrivent pas pour le marché, des gens qui n'ont pas de visée commerciale, mais pourtant qui font avancer la langue, la poésie.
Des gens qui font de la littérature.
Des écrivains, voilà. Donc c'est un prix d'écrivain et pas un prix d'éditeur. Et voilà, on donne une bourse à ces écrivains de 13 000 euros parce que c'était aussi encourager un écrivain et lui donner les moyens de continuer dans cette voie parce que souvent, ces gens ne vivent pas de leur écriture et ils ont besoin de temps. La littérature, c'est le temps. Donc c'était offrir du temps et un encouragement et un soutien parce que ce prix provenait de Montmartre et c'était redonné à Montmartre dans le jeu des lettres une présence. Et c'est vrai que le prix a eu son succès et sa présence agit parce que je pense qu'on parle de cet endroit-là, qui n'est pas un endroit neutre. C'est un endroit où l'art moderne, un endroit où les chansonniers, les peintres, tous ces gens débutaient ici. Et donc c'est un prix pour les... non pas qui enfonce les portes ouvertes, mais qui essaie de défricher, de découvrir, de soutenir bah, les livres exagérés, et voilà, les livres un peu difficiles qui demandent des efforts au lecteur.
C'est bien les livres exagérés.
Les livres un peu excessifs, les livres malades un peu, vous voyez, les livres malades, les livres qui pensent mal aussi. Donc voilà, il y avait un prix qu'il fallait comme ça, qui soutienne cette littérature qui est mise un peu parfois dans les marges au sein des prix.
Je vois Gilles Lesage qui est là également dans cette librairie. C'est votre ami
oui,
Emmanuel Seignier.
Oui, c'est mon ami. On s'est rencontrés sur Backstage. Où,
le film d'Emmanuel Berco. Et voilà. C'est avec elle. Elle, c'était Ultra Orange, le groupe Ultra Orange. Voilà. Moi, je l'ai même connu. C'était les Atomic Girls.
Oui, un groupe de performance.
Ouais.
Que des filles. Ouais. Mais maintenant, c'est les Nouvelles Atomiques. Dani, Emmanuel, Émilie.
Et Ultra Orange, ça existe encore, ce groupe ?
Oui, oui, oui. Enfin, moi, je me suis mise un peu à l'écart. Mais Pierre Emery écrit toujours des chansons et fait de la musique.
Vous faites, vous êtes photographe hein, maintenant.
Oui, oui, oui.
Et elle a fait un livre magnifique.
Il est là ?
Qui est là.
Ah ouais.
Qui s'appelle Désordre, un livre de photos.
Oui, c'est toutes vos photos depuis quoi, 10 ans, 15 ans.
Je me suis plongée dans mes archives en fait, personnelles. Bon, suite à un accident, il a fallu que je reste bloquée un peu à la maison pendant un long, 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 long moment.
Comme Frida Kahlo.
Sans pouvoir écouter de musique, etc. Et du coup, j'ai choisi de mélanger mes archives avec des photos personnelles, c'est-à-dire des photos de la guerre d'Algérie de mon père, des photos de famille. Alors, ça paraît être un livre un peu centriste, voilà. Mais c'est ma façon à moi de parler des autres aussi. Parce que je pense que tout le monde peut se retrouver dans ces histoires de famille. Chacun, après, interprète sa propre histoire.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on raconte énormément d'histoires de famille, même dans la littérature. Hein, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de livres sur le deuil, quand on perd son père, sa mère.
C'est
et c'est vrai que ça a beaucoup de succès à croire que toutes les familles sont interchangeables et qu'on se reconnaît toujours dans la famille des autres.
En parlant de sa propre famille, c'est toujours plus facile de se projeter aussi. Et c'est une façon aussi de remuer un peu les fantômes du passé et de réinterpréter et de réinventer l'histoire qu'on veut inventer. C'est comme un film monté à l'envers un peu.
Désordre, c'est un joli titre. Ça doit vous plaire à toutes les deux.
Moi, j'adore ce livre. Et d'ailleurs, on a tellement adoré le livre qu'on a demandé à Gilles de faire notre affiche, la photo de notre affiche.
Moi, j'étais très contente. J'adore les photographies.
J'ai pensé beaucoup à une grande photographe aussi qui s'appelait Francesca Woodman.
Ah oui.
Et c'est une jeune photographe qui, hélas, n'aura pas le même destin que vous, je le sais.
Oui, elle s'est suicidée.
Parce qu'elle s'est suicidée, mais à 16 ans, elle faisait des photos splendides. Mais il y a un rapport au corps.
Oui, c'est très fantomatique, en fait.
Voilà, c'est fantomatique. Elle essaie de photographier l'invisible. Et je trouve que voilà, vous êtes proche, vous êtes sœur un peu en image.
Et c'est de l'argentique aussi, du noir et blanc beaucoup.
Du noir et blanc, elle fait des... Voilà,
rien n'est retouché, rien n'est nettoyé, à l'inverse des photos d'aujourd'hui qui sont très numérisées, nettoyées.
Sans âme.
Voilà.
Vous laissez retoucher vos photos aussi, toutes les deux ?
Moi, je supporte pas.
Moi, en fait, je supporte pas quand on retouche les traits. Si on enlève un bouton ou quelque chose... Ça va, mais les traits, quand ils commencent à transformer les traits, à vous faire un nez plus petit ou quoi, ça, je trouve ça atroce.
Moi, j'aime pas du tout. Je trouve qu'il faut que la photo ressemble avec ses nez, quoi. Alors oui, le petit bouton...
Oui, les trucs qui sont vraiment pas beaux, mais...
C'est gracieux, mais moi, je les ai photographiés, elles n'ont pas besoin d'être touchées, hein, toutes les deux. Ça, c'est sûr.
On est tellement magnifiques.
Elle aussi, elle a un regard à travers son appareil
elle
photo.
Elle a une manière de voir les gens qui est très, très belle.
Europe 1.
On fait une pause. On se retrouve dans quelques instants, toujours à la librairie des Abbesses.
Et jusqu'à 12h30 pour quelques minutes encore, on se balade cette fois-ci avec Frédéric Taddeï. Nous sommes du côté du 18e arrondissement à Paris.
La balade avec Dany et Emmanuel Seignier se termine. Elle se termine à la librairie des Abbesses, sur la place des Abbesses. Je vois que Emmanuel, vous regardez le livre sur Van Gogh. C'est vrai que vous jouez dans votre prochain film.
Je joue dans le prochain film de Julian Schnabel avec William Dafoe qui joue Van Gogh.
Et Julian Schnabel étant lui-même un artiste contemporain.
Absolument.
Assez célèbre.
Assez célèbre. Et
vous jouez qui, vous ?
Alors, je joue une dame qui s'appelle Madame Ginoux. Qui était très très moche. Et c'est Van Gogh qui l'a peinte et Gauguin aussi. Il y a des fameux tableaux.
Mais peut-être qu'elle était très belle et qu'ils l'ont fait moche.
Je sais pas, je suis pas sûre. Hein, parce que franchement, vu les tableaux, ça devait pas être... Mais bon, c'était intéressant.
Ouais. Et Willem Dafoe est un Van Gogh convaincant.
Et Willem Dafoe est exceptionnel dans Van Gogh. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent qu'il va peut-être être nommé à l'Oscar cette année. Il a gagné le prix à Venise.
Les Oscars, on sait ce que vous en pensez.
On s'en fiche, mais moi je suis contente pour lui parce que je l'aime beaucoup. Et ouais. C'est un grand acteur.
Mais c'est difficile, il y a eu beaucoup de Van Gogh, Kirk Douglas, évidemment, un magnifique
mais lui,
Van Gogh,
il est vraiment... Dutron a été Van Gogh. Ouais, mais lui, il est vraiment exceptionnel, d'abord parce qu'il lui ressemble, et il fait vraiment une performance très très forte.
Il se coupe l'oreille dans le film ?
Ouais.
C'est toujours le climax des films
sur
Van Gogh.
Mais, non, mais c'est un peu différent, c'est un truc un peu... c'est artistique, quoi, c'est presque de l'art contemporain.
Ben déjà, de se couper l'oreille, ça commence à ressembler à l'actionnisme viennois ouais, voilà. Des années 60.
Mais c'est traité comme ça, le film. C'est ça qui est bien. C'est que c'est pas un biopic et c'est pas le truc classique. C'est presque une installation.
Dany, pas de cinéma ?
Qu'est-ce que je fais là ? Au cinéma, je fais un petit guest pour une série qui s'appelle Le temps est assassin. Avec sa sœur, d'ailleurs, qui joue dedans, Mathilde.
Avec Mathilde ?
Oui. Et puis, on va faire quelque chose au théâtre, très vite.
Ça va être quoi ?
Bah sur les femmes qui ont un peu changé le monde.
Ah oui, il y en a eu pas mal. Hein.
Bah oui, quelques-unes. Donc justement, on travaille avec Marie-Rose là-dessus, pour trouver les morceaux choisis, les femmes exceptionnelles. Il y en a quelques-unes pas mal.
Et on en trouve de plus en plus, parce que souvent l'histoire les a oubliées.
Ouais.
Et quand elles ressurgissent, on est toujours étonné.
Non mais par exemple, l'histoire d'Hollywood, rien que ça, qui a été fait par des femmes pendant 10 ans, et personne ne sait ça, quoi. Elles ont été éjectées par des mecs et on n'a plus jamais entendu parler d'elles. Il faut quand même le souligner parce qu'il y a des photos exceptionnelles.
C'est vrai qu'au départ, Hollywood, c'est pas vraiment une industrie. Donc les femmes, y sont réalisatrices, scénaristes, productrices. Elles sont même à la tête des studios.
C'est ça.
Et puis dès que ça va devenir une industrie, au moment où le cinéma cesse d'être muet et devient parlant, les hommes arrivent et pour les chasser, vous savez comment ils ont fait ? Ils ont créé des syndicats et ils les ont interdits aux femmes.
Tu vois.
Et c'est comme ça que les femmes ont disparu.
C'est pour ça qu'elles se rebiffent maintenant. Elles en ont marre d'être opprimées tout le temps.
Vous vous sentez opprimée, Emmanuel Seigny ?
Non, moi non, mais je sens que les femmes ont été opprimées pendant pas mal d'années et je pense que c'est pour ça qu'il y a tout ce mouvement peut-être qui est un peu trop excessif, mais qui
fait qu'elles osent parler, dire des choses.
Faut dire que c'est assez rageant. Hein. Dans quelques années, à l'époque où il devait y avoir une centaine de femmes réalisatrices à Hollywood, et quelques années plus tard, il n'y en avait plus que deux.
C'est dingue.
C'est fou, quoi. La sensibilité des femmes dans cet univers-là aussi, et partout d'ailleurs, hein, l'émotion, elle est quand même...
Elles reviennent, les femmes.
Oui, heureusement.
J'ai une fille qui est réalisatrice, et donc elles reviennent. Quoi.
Et un fils qui est chanteur.
Non, pas chanteur, il fait de la musique, mais... Ouais. Il chante très bien, mais il dit qu'il ne veut pas chanter.
Tout le monde aujourd'hui veut chanter ou devenir ou faire du cinéma, vous avez remarqué ?
Ouais, mais lui, il ne veut pas.
Il veut être connu. Je voudrais que ma fille soit connue. Ouais, ce n'est pas un métier.
Vous êtes inquiet pour l'avenir de vos enfants, Emmanuel Seigné ?
Inquiète, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que Will, enfin, c'est pas... Après, je suis sûre que nos grands-parents disaient la même chose.
Voilà.
Nos parents aussi, mais c'est... J'ai pas l'impression que c'est une période tellement facile pour eux, quoi.
Gilles Lesage inquiète pour sa fille ?
Un peu, oui. Bah, y a beaucoup plus de choses avec Internet, etc. Tout va beaucoup plus vite, mais quelque part, c'est beaucoup plus dangereux, je trouve.
Et tout dure moins longtemps aussi.
Voilà, parfois. Tout est éphémère. Enfin, c'est. Voilà, j'ai l'impression que c'était plus facile pour nous de jouer le petit pousset à 16-17 ans et de partir à l'aventure que pour eux aujourd'hui.
C'est ce qu'on dit, mais je me souviens quand on avait 16 ou 17 ans, les gens nous disaient que c'était plus facile dans les années 60, du temps de Dany, c'était plus facile pour Dany que...
Oui, je sais pas.
Mais on est la seule génération, enfin la mienne en tout cas, qui n'a pas vécu de guerre, donc il y a ça aussi.
Moi je suis après-guerre hein, quand même.
Oui. Toi t'es après-guerre, mais je veux dire...
Non, mais c'est vrai qu'après une guerre, il y a un mouvement de liberté énorme, donc ça dure 20 ans et après hop, on recommence.
Vous trouvez qu'on est moins libre aujourd'hui ?
Franchement, il n'y a que des interdits, je ne vais pas vous le dire. Ouais. Interdiction de fumer, de manger, machin. De
manger
tout,
du gluten.
De manger... Non, mais franchement, bon. Il est interdit d'interdire, mon cher Frédéric, vous le savez bien.
Oui, c'est un slogan que j'aime bien, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas existé. C'est un slogan de Jean-Yann. Eh bien, je vous remercie de nous avoir emmenés en balade avec vous deux, Emmanuel Seigné et Dany. J'en profite pour remercier la librairie des Abbesses où nous nous trouvons de son accueil. Je remercie également la cantine de la Cigale où nous nous sommes arrêtés. Je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, de 11h à 12h30. Et je vous laisse pour les informations.
Et d'ici là, bien d'autres balades à redécouvrir en podcast sur Europe 1.fr. Restez avec nous dans un instant, le journal de la mi-journée sur Europe 1. Bon dimanche.